Il est 8h passé de 2 minutes et nous sommes toujours dans les promesses de l'aube et nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités ce matin. Il y a Valérie Provost, il y a Catherine, et j'ai un trou là de grand matin, Catherine Videlaine et Camille Trinquet. Et toutes les trois, enfin surtout Valérie, tu es à l'origine de Pierre Papier Ciseaux, qui est une initiative artistico-thérapeutique féministe, je ne sais pas si on peut dire que c'est féministe, que tu as lancée déjà il y a quelques années. Tu étais déjà venue il y a quelques mois ici.
Il y a quelques mois en tout cas, oui.
Que tu avais fait.
Et qui revient sur les
bonjour
culottes.
Bonjour à toutes les trois d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Je vérifie qu'on vous entend bien. Et donc Valérie, oui, tu as lancé cette initiative Pierre Papier Ciseaux. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, Pierre Papier Ciseaux, c'est je m'interromps parce que le son a un très mauvais retour.
Recommence, on a un souci de son.
Je reviens.
Oui.
Donc, effectivement, Pierre Papier Ciseaux, c'est un lieu situé à Saint-Gilles qui est dédié. Enfin, c'est un lieu que j'ai ouvert au printemps dernier en tant que psy et art-thérapeute et très intéressée par l'art d'une manière générale, mais dans toutes ses fonctions. Et j'ai eu envie, en fait, d'ouvrir ce lieu et d'y proposer diverses activités pour toutes sortes de publics, avec une intention aussi vers la participation et l'inclusion, lieu dans lequel toutes les fonctions de l'art, en quelque sorte, peuvent se déployer. Je veux dire, on a tous un rapport à l'art qui peut être différent. Bien sûr, il y a l'art-thérapie, l'utilisation de l'art à des fins de soins, mais avant ça ou à côté de ça, l'art peut être présent pour tout le monde, de tas de façons différentes, et nous permettre d'être en lien avec nous-mêmes, de nous surprendre, d'avoir un moment un peu doux, de faire des liens entre une actualité et quelque chose d'artistique. Et donc, j'ai dans ce lieu, il y a différentes activités qui sont organisées, notamment des ateliers créatifs et des stages, bon, ça c'est plutôt classique, des consultations art-thérapeutiques, ça devient un petit peu moins classique, et 3 fois par an environ, un mois thématique, festival, autour d'un thème dans lequel se greffe toute une série d'activités autour d'un même thème, et chaque activité à l'art d'une façon ou d'une autre comme porte d'entrée. Des rencontres lectures, une expo collective, etc. Il y en a déjà eu 2, en juin dernier, en octobre, et là, le 3e vient de débuter sur la thématique du travail au féminin.
Et quel est le public justement que vous pouvez avoir lors de ces ateliers? Est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse à des personnes en particulier, des femmes en particulier? Justement, on arrive via cet appel de l'art, justement, à attirer des personnes qui viennent d'horizons complètement différents.
Oui, en particulier par rapport à ces festivals ou mois thématiques. Mon objectif, en imaginant aussi ces festivals dans lesquels se croisent plein d'activités différentes, c'est justement de toucher un public très vaste. Et j'ai pu le constater par le passé, et cette fois-ci, ça commence aussi à émerger. Y participent des personnes venues de tout horizon. Donc aussi bien des artistes ou des personnes qui sont en l'occurrence ici très intéressées par la question du travail ou par des questions de féminisme ou des personnes du quartier qui sont curieux et sentent que le lieu certes ressemble un peu à une galerie mais aussi un petit appartement dans lequel on est à l'aise et donc tout le monde est bienvenu. Et ce n'est pas réservé, et les gens le sentent très vite en passant devant, mais encore plus en rentrant, ce n'est pas réservé à une élite, pour le dire comme ça, ou un microcosme artistico-intellectuel féministe. Et donc, bien sûr, surtout avec ce sujet, des questions féministes surgissent, mais elles sont, encore une fois, déployées de telle manière que des personnes très militantes peuvent se retrouver dans ce qui est proposé, dans l'expo, mais dans certaines activités, et d'autres qui sont plus en questionnement, à la limite, et qui ne voient pas très bien ce que c'est le féminisme d'aujourd'hui, peuvent aussi, en fait, s'y retrouver et être à l'aise. Et ça, c'est un peu au cœur de ce que j'avais envie de proposer, en fait. Que tout le monde soit à l'aise sur place, et donc réceptif à ce qui peut se faire, en s'écoutant d'abord soi, en fait. Et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien pour le moment.
Justement, cet aspect de cette façon de tisser des liens, c'est vraiment important en ce moment, enfin, que justement dans une période où on est de plus en plus individualiste. Et donc, comment vous arrivez à tisser tous ces liens pour faire un mois aussi complet d'activité, et comment vous avez procédé justement après on
dans la conception
à Catherine et Camille, justement, pour voir comment vous avez pu embrayer et tisser ces liens avec Valérie.
En fait, souvent, bien évidemment, je mets en place un programme, enfin, je débute un programme des mois avant. En l'occurrence, Catherine va en parler, mais souvent, il y a d'abord une histoire, c'est-à-dire j'ai d'abord un lien avec une personne ou une œuvre que j'ai envie de montrer ou une activité. En l'occurrence, j'avais envie que le lieu puisse permettre de montrer le travail de Catherine Videlaine qui s'intitule lui-même « Travail au féminin ». Et puis autour de ça, j'ai réfléchi à, dans l'expo collective, j'aimerais d'autres artistes qui vont travailler, proposer quelque chose autour des femmes ou du féminisme, et les choses se sont resserrées autour du travail au féminin. Et donc, comme souvent pour ce genre d'activité, à la fois je fonctionne via, puis je parle à quelqu'un qui me dit « Ah ben contacte telle personne », en l'occurrence, je contacte quelqu'un qui me dit « tu ne connais pas la Ligue des travailleuses féministes », et je me dis « des travailleuses domestiques », un joli lapsus. et puis j'ai rencontré Camille, j'ai proposé à Camille de participer à l'exposition. Donc à la fois, même dans la conception, il y a des choses qui se mettent en place très naturellement. Je vais chercher en fait des personnes qui, mieux que moi, peuvent utiliser d'autres outils éventuellement pour parler de la même thématique. Et il arrive, enfin, c'est arrivé les deux fois précédentes aussi, il arrive qu'une fois que le programme est passé à l'impression, il y a une nouvelle collaboration qui se met en place. J'en parlerai sûrement tout à l'heure. Donc, il y a aussi des choses qui sont... je m'autorise, et tous mes partenaires s'autorisent des choses à la dernière minute, tout en étant que je veille toujours à une cohérence d'ensemble et à ce que... Voilà, à un certain degré d'exigence aussi, pour que tout le monde, justement, se sente bien. Voilà.
Et donc, avant de passer au programme, et à donner la parole à Camille et Catherine, je propose qu'on écoute une des chansons que Valérie, tu m'as envoyée hier soir, donc pour illustrer cette programmation. Et c'est Les filles qui travaillent de Marcel Merquès et Paulette Merval. Et on écoute ça, c'est tout court. Et ça date déjà un peu, tu nous expliqueras ton choix après.
Savez-vous à quoi pensent, en faisant leur métier, les repasseuses de Provence et du monde entier? Si ma robe est bien blanche, mon bonnet bien plissé, les beaux garçons dimanche m'inviteront tous à danser. Les filles qui repassent ont l'air de repasser, mais elles ne font qu'attendre, attendre, attendre, attendre l'amour tendre qui voudra bien passer. Hélice, écoute, et lave, et vous, celui qui qui va t'entendre sera-t-il à ton goût? Savez-vous à quoi pensent en cueillant leurs raisins les vendangeuses de Provence ou du Limousin? Si mes grappes débordent de mon petit panier, un garçon pour les mordre viendra peut-être y grappiller. Les filles qui vendangent ont l'air de vendanger.
Les filles qui vendangent ont l'air de vendanger.
Mais elles ne font qu'attendre, attendre, attendre, attendre l'amour tendre qui voudra bien passer. Écueille, écoute, hélice, écoute, et lave, et vous. Celui qui va t'entendre sera-t-il à ton goût? Savez-vous à quoi pensent en faisant leur métier toutes les filles de la France et du monde entier? Quand la mousse est jolie, l'église est à côté. Si mon galant l'oublie, l'emmènerait la visiter. Les filles qui travaillent ont l'air de travailler.
Les filles qui travaillent ont l'air de travailler.
Mais elles ne font qu'attendre, attendre, attendre, attendre l'amour tendre afin de se marier. Et fauche, et noue, et cueille, et goûte,
et lisse, et goûte, et lave, et boue.
Qu'est-ce qui te... On vient donc d'écouter Marcel Mercès et Paulette Merval. Et donc, Valérie, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette chanson, au-delà du titre?
Ben, j'avais envie de vous surprendre.
C'est réussi.
Hein,
tout à fait. Et parmi d'autres morceaux, voilà, je suis tombée un peu par hasard, hein, c'est vrai. C'est pas dans ma... C'est pas une chanson que j'écoute tous les jours. Sur cette chanson Désuète, en même temps, quand on parle des questions de travail au féminin, parfois les discours ne sont pas si éloignés de ce contenu-là. Enfin, ça dépend. Voilà. Moi, mon premier objectif, c'était un petit peu de vous surprendre. Et c'est vrai que moi, j'ai été surprise aussi dans la réalisation de ce mois thématique lorsque j'ai contacté des artistes ou que certaines sont venues vers moi, que finalement, en dessous du gros chapeau travail au féminin, la plupart des propositions, quasi toutes les propositions, parlent en réalité du travail domestique et ménager. Et ça m'a un petit peu troublée. Je pensais que des artistes allait peut-être parler aussi d'autres choses. Et donc, voilà, je pense que ça reste très prégnant quand on parle des femmes, du travail, de la maison, ou même de l'extérieur, cette question de travail ménager. Et voilà, dans cette chanson, on parle aussi, justement, de ce que les femmes font et ne font pas en faisant le ménage. Elles attendent ou pas les hommes. Enfin, on peut en dire beaucoup.
Et justement, ça fait le lien, effectivement, avec les deux, aussi bien le travail de Camille, qui a suivi la Ligue des travailleuses domestiques, donc, et qui les a photographiées durant ces quelques mois, je pense. Enfin, Camille, tu nous expliqueras, que le travail de Catherine Videlaine autour, cette fois-ci, des éponges. Et donc, mais ce n'est pas le seul travail, justement, qui a lieu à ce travail domestique, mais ici celui qui est présenté, c'est ce travail autour des éponges qui sont un ustensile, enfin quelque chose qui est principalement utilisé aussi par les femmes. Donc je ne sais pas comment commencer, laquelle de vous deux veut commencer à expliquer son travail. Donc Camille, tu es une jeune photographe et donc tu avais par le passé déjà photographié aussi et suivi les collectifs sans papier, si je ne me trompe, et donc et effectuer des photographies dans ce cadre-là. Catherine Videlaine, vous êtes artiste plasticienne avec un travail aussi déjà conséquent. Donc comment vous vous êtes sentie intéressées, enfin partie prenante de ce projet aussi du mois travail au féminin de Valérie.
Bien, ben, je vais commencer. Valérie, ben, je la connais depuis longtemps, c'est une amie. Et donc, elle connaissait ce travail qui est Travail au féminin, qui est une série de 24 éponges qui présente, on va dire, globalement, les carrières professionnelles des femmes, avec les aléas qu'elles rencontrent. Bien sûr, les hommes connaissent aussi des difficultés, mais les femmes, quand même, elles ont le pompon. Donc, moi, j'ai une partie de mon travail personnel qui est axée sur le travail sur les femmes en général. Et donc, j'étais partie, il y a pas mal d'années, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, sur l'idée de rendre visibles les tâches invisibles du quotidien. Donc j'avais mis en lumière des cireuses, j'avais utilisé des cireuses, des fers à repasser, enfin des ustensiles de ménage, et j'avais introduit de la lumière pour les rendre différemment visibles. Et ce travail qui était plutôt dans la sphère privée m'a poussé à une réflexion qui était parce que je travaille beaucoup auprès de femmes migrantes. Je fais des projets artistiques avec des groupes de femmes migrantes. Et même si ce sont des femmes qui sont diplômées dans leur pays, quand elles arrivent... Bon, moi, je suis française, hein, donc à Paris. Mais je pense que le problème est à peu près universel. Quand elles n'ont pas la langue... qu'elle soit médecin en Géorgie ou pharmacienne en Égypte, en France, la seule entrée possible, enfin, il y a deux entrées possibles, moi, que je vois, c'est le ménage et la restauration. Donc, ça, on a beaucoup travaillé avec ces femmes plusieurs années sur cette notion de travail. Et donc, ben, j'ai travaillé sur cette série d'éponges parce que, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, une éponge, c'est une femme, souvent, qui l'utilise dans une cuisine. Et l'idée de l'éponge qui absorbe aussi, et il y a le côté un petit peu du care, qui est quand même plutôt féminin. Donc ces éponges, eh bien, c'est toujours la même éponge qui est déclinée 24 fois, 24 heures. Pourquoi ? Parce que... si on se réfère au travail domestique, ben c'est incessant. Donc, et même quand ce sont des personnes qui sont travailleuses domestiques, personnel de maison, nous on dirait en France, eh bien, elles ont des heures à n'en plus finir. Et parfois même, les patrons en abusent et autres. Donc, les 24 heures, elles sont quasiment toutes remplies. Cette série, je pense qu'elle est répertoriée à l'Égalitech du centre Hubertine Auclert à Paris, qui est le centre égalité femmes-hommes, et elle peut être louée par des institutions. Et ces 24 éponges, je pense qu'elles répondent assez bien à... C'est-à-dire, elles sont l'ensemble est visible et compris à tous les niveaux, aussi bien que ça soit des gens qui connaissent l'art contemporain ou des personnes qui, pour la première fois, les voient. Et ça, je suis très touchée par ça parce qu'elles tournent depuis plusieurs années et ça fonctionne à tous les niveaux. Et donc, bah, ça commence par une éponge qui a une tache rouge, qui s'appelle impure, parce que bah, on est femme. Donc on a des règles, donc on a certains métiers qui nous sont interdits dans certains pays, l'école, l'éducation, et puis ça se termine par taux de retraite réduite, parce que bah, les femmes ont eu des aléas, des interruptions de carrière, bah, dues à l'éducation des enfants, parce qu'elles sont moins bien payées, enfin bon voilà, et donc c'est cette histoire-là.
Et comment vous avez dit que vous travaillez avec les femmes migrantes à Paris, comment vous procédez quand vous travaillez avec elles? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont faits? Est-ce qu'il y a des rencontres?
Alors,
comment s'organise votre...
Ça marche. Enfin, donc en France, c'est comme ça. On a de la politique de la ville, ce qu'on appelle, pour les quartiers en difficulté.
Donc ce sont des groupes de femmes qui apprennent le français dans ces quartiers. Et je travaille plus particulièrement avec une formatrice, Magali, que je salue parce que vraiment elle est extra. Et donc on fait un projet qui dure 2-3 mois. Là, le prochain projet va commencer d'ici la fin mars. Et ça va être un théâtre d'objets. Parce que moi, je travaille sur la mémoire des objets. Et donc là, je fais avec Caroline Vest, qui est une comédienne. On travaille toutes les deux, plus la formatrice, à créer un projet sur le rapport au travail de ce groupe de femmes. Et ça sera donc l'objet de mon travail, le titre. Donc l'année dernière, c'était sur le parcours migrant et la mobilité. À chaque fois, ce sont des périodes de 2-3 mois très intenses où on travaille tout ensemble.
Et justement, vous avez évoqué la question de l'art contemporain. Est-ce qu'actuellement, l'artiste contemporain se doit d'être engagé, enfin de... C'est une vaste question.
Je pense que ça, c'est complètement personnel. Moi, je pense oui, mais ça, je crois que c'est vraiment... je connais des gens qui ne le sont pas du tout, et qui tracent leur route par une recherche personnelle. Bon, moi tout mon travail n'est pas militant, mais c'est quand même une grande partie. Mais je conçois qu'on puisse ne pas l'être. Enfin bon, moi j'aurais du mal, hein, mais parce que je suis ancrée dans la vie et que je vois pas. Et moi, ce que j'ai envie de faire et que j'essaye de faire depuis plusieurs années, c'est de transmettre cette envie de l'art. Enfin voilà, je fais aussi de l'art urbain parce que je pense que l'art urbain, ça permet à tout le monde d'être sensibilisé à l'art, d'avoir une émotion, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, pour moi, c'est l'émotion. Avec les groupes, généralement, on fait une visite dans un musée, une exposition, enfin quelconque, et souvent les personnes disent « mais je ne sais pas ». Mais non, mais on s'en fiche, c'est l'émotion qui compte. Tu as une émotion devant quelque chose où ça ne fonctionne pas pour toi et ce n'est pas grave. Voilà. Donc je pense que ça, c'est très important.
Et justement, c'était plutôt le sens de ma question aussi. C'était pas seulement la militance au terme strict, mais cette question de ne pas comprendre l'art contemporain, c'est quelque chose qui revient souvent. Et donc, d'autant plus qu'on travaille avec des personnes qui viennent de milieux où l'art contemporain n'a pas de place. Et donc, comment est-ce que c'est une éducation populaire à l'art contemporain qui...
Oui. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience, régulièrement j'ai des expériences, mais par exemple, il y a le MAC, qui est un musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine, pas loin de chez moi, qui est vraiment une grande réussite parce que c'est dans une ville assez populaire, enfin bon. Et les jeunes qui sont dans les salles sont des jeunes issus des quartiers populaires. Et donc là, c'est très, très, très contemporain. Des fois, et on me dit, mais non, je ne vais pas y aller parce que moi, je ne comprends rien. Et je dis, ben, on y va ensemble, et puis moi, je vous explique 2-3 choses, 2-3 clés comme ça, parce que ça parle de vous. Souvent, l'art contemporain est très, très ancré dans la vie de chacun, comme à Orsay, on parle du 19e, et qu'on commence à parler des ouvriers. Quand je vais à Orsay, on travaille là-dessus. Ce ne sont plus seulement les bourgeois, mais c'est aussi l'ouvrier qui apparaît. Et l'art contemporain, il est vraiment ancré dans notre vie actuelle. Et une fois que les gens ont commencé à comprendre ça, je pense qu'ils sont plus à l'aise. Alors, tout n'est pas compréhensible, hein, même moi. Voilà. Mais... je pense que ça les détend, on va dire.
Et justement, ça rejoint un peu aussi ce qui est en jeu dans le travail que tu fais en tant que tisseuse de liens, Valérie, c'est justement de pouvoir mettre tout ça ensemble et mélanger les gens et aussi peut-être... Camille, comment tu t'es aussi en tant que photographe plutôt intéressée à photographier des collectifs militants et des collectifs de personnes qui sont en proie à une réalité aussi difficile, compliquée et qui pourtant sont bien debout?
Mais donc, moi, j'ai commencé d'abord par photographier, suivre tous les mouvements de manifestation de collectifs de sans-papiers. Donc, j'ai commencé ce travail en 2013 avec les collectifs le collectif des Afghans. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je me suis intéressée à la question et j'ai commencé par approcher des groupes en tant que tels, sortir un peu de tout ce côté manifestation et puis essayer de faire un travail un peu plus en profondeur. J'avais d'abord approché un groupe de femmes dans le cadre d'un atelier que je proposais dans un centre de la Croix-Rouge. Donc pour les demandeurs d'asile, là en l'occurrence c'était un centre où il y avait à majorité des femmes seules avec enfants ou des femmes sans enfants. Et donc c'était une première approche et ça c'était 2015. Et voilà, l'année passée, Magali Verdier, donc qui est la personne qui accompagne le groupe de la Ligue des travailleuses domestiques dans le cadre de leur travail syndical, elle m'a demandé si ça m'intéressait de collaborer et de suivre le groupe. Parce qu'elles avaient besoin tout simplement de visibilité, d'image. Et donc j'ai accepté tout de suite parce que c'était vraiment ce vers quoi j'allais de plus en plus, vers ce genre de projet, parce que je suis une photographe, oui, mais je suis aussi une militante pour la liberté de circulation de toutes et tous, et militante aussi féministe de par ma condition de femme. Voilà, ça a été vraiment une opportunité pour moi aussi de pouvoir suivre ce groupe de femmes pendant plusieurs mois. Ça a duré jusqu'au mois de décembre 2019. Et j'ai rencontré après Valérie dans le cadre de la première vision, on va dire, de ce travail lors de l'exposition collective que j'ai fait avec mes camarades de promo de photographie de l'école Agnès Varda, donc au mois de janvier. Et elle a été tout de suite intéressée par le travail, puisque ça rentrait tout à fait dans le cadre de l'exposition qu'elle préparait. Et voilà, ça c'est les choses s'enchaînent comme ça, parce que je pense qu'on est on est toutes un peu liées par notre condition de femme et de militante.
Et justement, pour expliquer un peu cette Ligue des travailleuses domestiques, elle s'organise comment, et justement comment on peut faire le lien entre ces femmes qui viennent du coup d'un peu partout dans le monde et qui se retrouvent ici à être travailleuses domestiques. Quelles sont leurs revendications aussi?
Donc c'est un groupe de femmes qui est accompagné donc par le syndicat CSC. Et donc c'est vraiment une possibilité pour elles de se mobiliser ensemble pour leurs droits en tant que travailleuses domestiques. Et donc elles revendiquent des conditions de travail dignes. En l'occurrence, à travers la régularisation, afin de pouvoir réclamer leurs droits, afin de pouvoir exister dans cette société belge qui continue de les ignorer encore maintenant. Et cette revendication, elles le font aussi notamment par tout un plaidoyer politique donc qui est construit avec le syndicat. Et dont Magali se porte garante en quelque sorte, en accompagnant le groupe. Et elles font ça aussi dans l'idée de pouvoir justement se rencontrer, il y a aussi ce but-là social de se rencontrer en tant que femme issue de cette condition de vie, on va dire, de personnes sans papier, et de pouvoir créer des liens, organiser des activités ensemble, se renforcer en tant que femme aussi. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, toutes ces femmes, il y en a beaucoup qui sont diplômées dans leur pays, mais qui ne peuvent pas exercer le métier auquel elles prétendent ici en Belgique. Donc elles se retrouvent à faire des travaux de ménage qu'elles n'auraient jamais fait sans doute si elles étaient restées chez elles, quoi. Voilà. Donc c'est assez compliqué, c'est vrai pour elles, de se retrouver dans un premier temps dans cette situation, mais après elles ont vraiment, quand elles rencontrent Magali ou d'autres femmes de la Ligue, les nouvelles personnes qui arrivent sont assez motivées, réénergisées quelque part par cette cohésion de groupe qui se crée à travers la Ligue.
Et justement, c'était ma question de savoir justement si, comme Catherine le disait, elles avaient d'autres métiers avant de venir ici. Et du coup, ça fait le lien aussi justement entre cette mondialisation qui peut y avoir et le fait que des femmes se retrouvent à devoir assumer les tâches que les femmes belges, entre guillemets, ne peuvent plus faire parce qu'on travaille, parce qu'elles travaillent à temps plein et donc qu'elles n'ont plus le temps de faire le ménage. Et donc ce cercle vicieux aussi, cette charge mentale qui était évoquée en filigrane par Catherine tout à l'heure. Est-ce que ce lien-là aussi, est-ce qu'il il est important à mettre en avant justement pour renforcer cette solidarité entre toutes les femmes justement? Et
personnellement, moi, je trouve qu'il est important de le mettre en avant effectivement, parce que au final, quand on s'intéresse un peu au sujet du travail domestique, on se rend compte que il est assuré effectivement par des femmes dont les conditions de travail et de vie ne sont vraiment pas toujours dignes et évidentes, on va dire, au quotidien. Et elles sont au final à la base de l'économie belge et l'économie mondiale même, on pourrait dire, parce que elles assurent tout un pan de travail qui n'est pas vraiment valorisé, reconnu, et qui doit être fait de toute manière, quoi. Donc elles prennent la place des femmes belges qui n'ont plus le temps du fait qu'elles travaillent pour plein de tâches ménagères. Et c'est une construction de société qu'on est en droit, je trouve, en tant que femme, même en tant que femme ayant des papiers, ayant une bonne situation, qu'on est en droit de remettre en question et de questionner, ouais.
Catherine ?
Oui, c'est, moi je suis aussi toujours troublée qu'en gros, c'est la libération de certaines femmes se fait au détriment d'autres. Et beaucoup ne se posent pas la question. Moi, c'est vraiment un gros souci parce que y en a qui nettoient la crasse des autres. On va dire ça, c'est Geneviève Fraisse qui parle comme ça, la sociologue, mais c'est exactement ça. Et on remet ces femmes dans des sphères privées et non pas extérieures. Enfin, voilà. Donc, même dans le travail domestique, on voit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes travaillent beaucoup plus dans les institutions et utilisent les machines, alors que les femmes, elles utilisent le balai. Voilà. C'est souvent, hein. Et je vais faire une transition parce que j'ai oublié de préciser que cette exposition au travail au féminin, régulièrement, j'ai rencontré, enfin, ça s'est trouvé que moi j'avais lu un texte d'elle, et puis après, deux années après, elle a vu l'exposition des éponges et elle a dit, mais ça, on doit travailler ensemble. C'est Noëlle Lame, qui est médecin du travail et écrivaine, qui va venir de Paris pour vendredi à Pierre Papier Ciseaux à 19h, qui, elle, écrit des très beaux textes par rapport à ses entretiens qu'elle a avec ses travailleuses et ses travailleurs. Et elle parle de l'usure des corps et des amputations invisibles qui sont liées au travail, qui sont liées à des gestes, qui sont liées... Elle parle par exemple des femmes aux étoiles. Les femmes aux étoiles, c'est souvent les hôtesses de caisse, ce qu'on appelle, ou les caissières. Et à force de porter des tonnes d'aliments, eh bien, elles ont les tendons qui sont des épaules qui se fragilisent et elles sont opérées. Elles ont des petits trous qui sont à l'opération faites comme des étoiles. Voilà. Donc tout ça, ce sont des femmes qui après ont du mal à faire des mouvements. Il peut y avoir aussi hein, des hommes, il n'y a pas. Mais voilà. Et donc vendredi, on va parler de ça, de l'usure des corps et de l'amputation, des amputations invisibles, parce que dans le corps, on a une mémoire ouvrière. Enfin, j'ai une éponge qui s'appelle comme ça, qui est toute sale, toute recroquevillée, et qui s'appelle mémoire ouvrière parce qu'on a dans nos corps cette espérance de bien-être. Et bon, nous en France, on a actuellement la réforme des retraites. Eh bien, donc c'est un petit peu chaud. Mais à ce propos. C'est bien parce qu'on a remis en évidence qu'un ouvrier a 13 ans de moins d'espérance de vie, de moins qu'un cadre supérieur. Voilà, 13 ans, c'est énorme. Et après, même quand il s'arrête, qu'est-ce que ça veut dire le bien-être, voilà. Et donc, on va parler de ça vendredi.
Oui, et cette question de l'usure des corps, elle est importante aussi, justement, dans la décision de quels sont les emplois pénibles, qu'est-ce qui est considéré comme pénible dans la société, et comme ce sont en général les hommes qui décident ce qui est pénible, ce sont souvent les métiers d'hommes qui sont considérés comme pénibles, et pas, par exemple, un maçon sera considéré comme faisant un travail pénible, alors qu'une infirmière qui porte des corps aussi et qui porte de lourdes charges à longueur de journée ne sera pas comme ça. Valérie, tu voulais intervenir ? Non.
Pas spécialement. À un moment donné, peut-être, mais voilà, je trouve que Catherine et Camille parlent tellement bien de leur travail et elles-mêmes de ce tissage de liens et de... De ce qu'il y a derrière tout leur travail, qui leur travail à la fois est esthétique, mais porte une série de valeurs, de rencontres, se répondent aussi. D'ailleurs, Camille sera présente aussi vendredi avec la Ligue des travailleuses domestiques. Voilà, et donc je trouve ça formidable de les avoir rassemblées et les écouter, c'est un plus.
Et dans l'espace, elles se répondent vraiment les expos parce qu'on est face à face. Donc, il y a un dialogue. Mais pour revenir à l'usure des corps, un détail, par exemple, vendredi, peut-être que Noëlla m'en parlera, mais le ballet espagnol, ce qu'on appelle nous le ballet espagnol, c'est un ballet avec des franges. Eh bien, on fait des 8 pour nettoyer. Ben, ce qui paraît, c'est terrible pour le corps, voilà. Et on n'a pas le sentiment que c'est extrêmement douloureux et que la répétition de ce geste-là, c'est comme... On va penser au marteau-piqueur, parce que ça paraît évident comme pénibilité, mais le ballet espagnol, on va pas y penser. Voilà. Et les sauts qu'on monte quand il n'y a pas d'eau, parce que c'est cassé, qu'il y a un robinet cassé, des choses comme ça. Donc...
Je propose une mini pause musicale avec encore une chanson que tu nous as proposée, Valérie. C'est raccord avec ce qu'on vient d'évoquer, les caissières de supermarchés qui déplacent les marchandises à longueur de journée. C'est la caissière du super, c'est Arthur H.
Vous avez la carte de fidélité ?
Non.
Ah !
concert de son père. Un boss, boss pour le boss, pour les beaux yeux du boss. Un boss pour le boss, elle est vraiment super, la caissière du super, pour les beaux yeux du boss. Elle bosse, elle bosse, bosse pour son gosse, pour les beaux yeux du gosse. Elle bosse pour son gosse, elle est vraiment super, la caissière du super, pour les beaux yeux du gosse. Ne se lasse pas d'enregistrer les petits travers de la caissière du super. Elle est vraiment super, la caissière. Elle bosse, bosse pour la banque, pour les beaux yeux de la banque. Elle bosse pour la banque. Elle est vraiment super, la caissière du super, pour les beaux yeux de la banque. Elle bosse, elle bosse, bosse pour la bouffe, pour la bouffe de son gosse. Elle bosse pour la bouffe, elle est vraiment super, la caissière du super, pour la bouffe de son gosse. Ne se lasse pas d'enregistrer les petits travers de la caissière du super. Les petits chefs ne se lassent pas de critiquer les petits travers.
Voilà, on écoutait donc la caissière du super, Arthur H. Et on est toujours en compagnie de Valérie, Catherine et Camille pour nous parler de ce beau festival Travail au féminin qui a lieu du 7 mars au 3 avril à Pierre Papier Ciseaux, rue de l'Hôtel des Monnaies 107 à Saint-Gilles. Et donc on a évoqué le travail de Camille Trinquet et de Catherine Videlaine. Il a été question déjà de cette soirée de vendredi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi peut-être détailler quelques petits moments phares de ce festival?
Alors, avec grand plaisir. Alors, j'ai envie de commencer par préciser aussi les noms des autres artistes qui participent à l'exposition collective, puisqu'aujourd'hui, on a pu en entendre deux, mais en réalité, elles sont sept. Et elles proposent tout un travail sur cette question du travail au féminin. Donc, il y a, dans le désordre, Zoé van der Slikken, qui fait un travail de longue haleine, de broderie. Zoé, elle brode des tétons pour les rendre justement plus visibles. Elle s'intéresse à cette question de la visibilité des tétons, de la prothèse, etc. Il y a Marion Sénénette qui est écologiste et assembleuse et qui aurait sûrement qui aimera sûrement la première chanson qui a été diffusée tout à l'heure parce que ce qu'elle propose est un petit peu désuet et décalé et avec une remise au goût du jour et aussi un engagement très clair. Annette Masquillier, elle fait des dessins elle a tout un travail de nombreuses années sur des questions féministes et là elle propose une série de dessins qui sont issus d'un livre qui s'appelle Rouge mise en pli, et dans ce livre il y a également des textes d'écrivaines entre autres belges et de poètes. Il y a aussi Valérie Callewaert qui fait un travail surréaliste sur le travail, et aussi Marion Poussier qui voilà, développer tout un travail de presque de photothérapie autour justement du travail ménager et domestique. Voilà, j'avais vraiment envie de les citer. Mais c'est vrai qu'à part ça, il y a deux rencontres lectures, dont une ce vendredi-ci sur l'usure des corps au travail, une autre sur les violences au travail et comment rebondir. Il y a également un spectacle sur les féminismes en général qui en fait est entre le conte et la conférence gesticulée. Il y a énormément d'ateliers destinés plutôt aux adultes, mais deux ateliers sont ouverts et destinés aux enfants ou dans un contexte aussi intergénérationnel. Et enfin, deux ciné-canapés, donc respectivement le 2 avril, donc en fin de festival, il y aura en collaboration avec la Vidéothèque Nomade une présentation de 7 courts-métrages sur le travail, et en particulier sur le travail féminin, puisqu'il s'agit exclusivement de réalisatrices. Et le lendemain, juste avant la soirée dite de finissage de l'exposition, va être diffusé le documentaire de Stéphane Prigeaud, La vie d'une petite culotte et de celle qui la fabrique. Voilà. Donc, et toutes les informations sont disponibles voilà, sur les réseaux sociaux, à la page de Pierre Papy-Ciseaux, mais aussi différents événements qui donnent des tas d'informations, et moi je reste aussi disponible pour en parler, et mon site internet voilà, déploie le programme également.
Et donc tous les événements ont lieu à la rue Hôtel des Monnaies, oui. Ou il y a d'autres
non.
Lieux
non. Tout a lieu sur place. Voilà, donc tout s'imbrique. Il y a des moments il y a des activités qui ont lieu le soir, en semaine, d'autres le week-end. L'exposition est visible tout le temps dans le cadre de tous ces événements, et puis aussi sur rendez-vous. Certaines activités sont payantes, notamment les ateliers. Le lieu n'est pas du tout subsidié, donc malheureusement, l'engagement ne suffit pas pour permettre ce type de festival. Mais énormément d'autres activités sont à prix libre, voire gratuites, et bien sûr, une attention est portée aux questions d'inclusion, donc tout le monde est bienvenu. Voilà, pour échanger, rencontrer, discuter, être juste ensemble sur cette thématique.
Et du coup, comment on peut s'inscrire? Il faut s'inscrire à l'avance pour les ateliers, pour la conférence, le spectacle du 27 mars. Est-ce qu'il y a un processus de réservation?
En fait, il y a un processus de réservation pour les ateliers. Les ateliers créatifs, les ateliers d'écriture, voilà. Et là, il faut contacter Pierre Papy-Ciseaux ou m'envoyer un courrier à, je précise vite, à valerie@provostmail.be. Pour les autres activités, on a décidé volontairement de ne pas proposer d'inscription. Et donc, les dernières minutes sont les bienvenues aussi. On verra si c'est bondé ou pas.
Ben, ça serait un bon signe que ce soit bondé. Dommage pour oui. Ceux et celles qui ne pourraient pas rentrer. Je vois que l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on aurait oublié d'évoquer et qui semblent importantes à dire ce matin?
Alors, moi, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui, artistes, animatrices, animateurs, qui m'accompagnent dans ce projet, puisqu'effectivement, ce projet ne bénéficie pas de soutien extérieur. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes font le pari que la façon dont les choses sont présentées, préparées, disponible, visible, chez Pierre Papy-Ciseaux, peut fonctionner. Et donc, je m'appuie sur ces engagements-là. Et ça, je trouve ça non seulement très agréable, important, mais aussi un petit peu courageux. Et je voulais aussi rappeler l'adresse, donc le lieu, c'est à Saint-Gilles, donc c'est rue Hôtel des Monnaies, 107, en face du parc.
En face du parc. Le parc, j'oublie voilà. Toujours qu'il y a un autre côté à la rue Hôtel des Monnaies, en fait. Ouais. Et donc, merci à toutes les trois d'être venues de grand matin, malgré cette bruine qu'il y a dehors. Merci Camille, merci Catherine, merci Valérie.
Merci.
N'hésitez pas, donc, amis auditeurs, auditrices, à vous rendre au 107 rue Hôtel des Monnaies, donc que ce soit pour les ateliers, les rencontres, lectures, les spectacles, les ciné-canapés ou tout ce formidable programme. Merci à toutes les trois et bonne journée à vous trois. Nous, on poursuit en musique et puis on finalisera cette émission et je vous propose d'écouter une reprise de Strange Fruit par Rokia Traoré. Voilà, c'était donc Strange Fruit avec cette reprise de Rokia Traoré. Nous, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, donc, le Festival Travail au Féminin, c'est jusqu'au 3 avril, avec plein d'ateliers, plein d'activités. Et nous, on se retrouve mercredi prochain sur Radio Panique, et bien toute la programmation du mercredi. Quelques concours aussi, notamment sur pour remporter des places pour le festival Offscreen. Et donc, allez sur le site pour voir les séances auxquelles on vous invite. Et il faut répondre pour ce mercredi 12h. Voilà, bonne journée à vous toutes et tous et à tout bientôt.